Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben, il faut quand même le dire à nouveau. On essaye vraiment de parler d'autre chose, mais ça nous ramène toujours à ce sujet assez important, primordial chez nous, et c'est le fameux COVID, en particulier le bilan du Québec. Ça, il faut quand même le reconnaître, le Québec a le pire bilan COVID au pays, et ça dérougit pas. Il faut se rendre à l'évidence, il y a certainement quelque chose qu'on fait pas comme il faut. Tous les autres sont meilleurs que nous. L'Ontario, je vous le disais hier, province plus peuplée que la nôtre, contrôle pas mal mieux le virus que nous. La Colombie-Britannique également, qui a été la première à avoir des signes de virus, le fait également. L'impact dans la population en général au Canada également est minimisé. Chez nous, on a donc de la misère. Comment ça se fait? C'est un peu ça la question que j'aimerais aborder avec vous, mais surtout qu'on la regarde de notre point de vue personnel. Puis je vais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites, vous, pour protéger vos proches? Ce matin, un peu partout, on a des exemples de personnes âgées, de proches, de familles qui pensaient être en sécurité. Une dame, entre autres, à Carleton-sur-Mer, là, qui est l'endroit au Québec en ce moment là où il y a le plus haut taux de contagion par habitant. Il y a également plusieurs décès. Ils ont été vraiment pris par surprise. Ils pensaient jamais que ça arriverait en Gaspésie. Il y a d'autres régions comme ça qui avaient une espèce de sentiment de sécurité parce qu'ils avaient l'impression qu'ils étaient loin puis que le virus se rendrait jamais à eux. Or, c'est pas ça qu'on a vu. Alors, qu'est-ce qu'on fait ou qu'on fait pas? C'est peut-être plus ça qui fait qu'aujourd'hui, on a un très, très piètre bilan et qui fait dire à certains spécialistes qu'on est dans un moment qui est quasiment pire que ce qu'on a connu en première vague. C'est ce que dit le docteur François Marquis, qui est le chef des soins intensifs de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec qui je vais parler à l'instant. Bonjour, docteur Marquis.
Bon matin.
Comment ça se fait que le Québec n'est pas capable d'y arriver, François?
En fait, c'est pas qu'est-ce qu'on fait de pas correct présentement, c'est qu'est-ce qu'on a fait de pas correct il y a 2 semaines, 1 mois. Parce qu'il faut comprendre que la contagion a commencé, en fait, probablement là vers les derniers beaux jours de septembre. Puis c'est pas compliqué, là. Tous les rassemblements, tous les gens qui ont fait des petites exceptions, là, ça s'appliquera pas à moi. Moi, je fais mon petit party. Ben c'est là. C'est juste ça. Et d'éclosion en éclosion, la vague, au lieu de rester des petites taches d'huile, mais toutes les petites taches d'huile se sont touchées, et aussi ce sentiment-là d'invulnérabilité. Il y a des groupes, il y a aussi des communautés qui se sentent invulnérables parce qu'ils disent, ben, on est tellement loin, le virus va pas se rendre jusqu'à nous. Mais non, je m'excuse, le virus, lui, il voyage très, très bien, il a traversé des océans. C'est que c'est pas très, très compliqué pour lui. Suffit d'une personne qui amène le virus, puis après ça, on tombe dans une population vulnérable, puis boum, tout le monde l'a, parce que personne fait attention, parce qu'ils pensent qu'ils peuvent pas être malades. Là, c'est l'histoire du cheval de Troie qui s'est reproduit avec le virus. C'est juste ça, là.
Oui, alors, les augmentations qu'on voit en ce moment, Dr Marquis, c'est encore des relents de notre attitude des 2 dernières semaines ou des 3 dernières semaines. Donc, ça devrait, à la mi-octobre, ou à peu près au week-end de l'Action de grâce, ça devrait baisser.
Bien, en fait, ce que ça veut dire, c'est que si là, tout le monde rentre dans le rang puis fait ce qu'il faut, il faut pas qu'ils se découragent parce qu'encore pendant 2 semaines, les chiffres vont monter. Et le problème, c'est que quand une éclosion plus importante ou une vague se produit, la quantité d'efforts qu'il faut faire pour la briser est beaucoup plus importante que ce qu'on aurait dû faire pour l'empêcher. Hein, c'est un peu comme quand une inondation commence, quand un barrage commence à céder, arrêter l'eau, c'est tout un défi. Alors que de s'empêcher que l'eau s'infiltre d'un crack, c'était beaucoup plus facile.
Mm-hmm.
Entretenir le barrage aurait été beaucoup plus simple que d'essayer d'endiguer toute l'eau maintenant qui se répand dans la population.
Ouais. Hier, aux nouvelles de Radio-Canada, Christian Dubé, ministre de la Santé, semblait suggérer qu'on était peut-être plus indisciplinés au Québec. Est-ce que vous seriez d'accord avec cette conclusion?
J'aurais tendance à être d'accord, effectivement. Pour avoir travaillé dans le reste du Canada, le reste du Canada a un respect des règles qui est, je crois, moi aussi, supérieur à ce qu'on peut voir au Québec.
C'est notre indiscipline, donc, notre individualisme aussi, ont suggéré d'autres gens?
Ben, je pense que les deux vont ensemble. Chaque citoyen a sa responsabilité, mais comme société ou comme groupe, hein, chaque groupe a aussi une responsabilité. Il faut voir que la responsabilité est partagée à plusieurs niveaux, mais à la base, si tous les individus avaient fait leur devoir, avaient bien respecté, on serait pas où on en est là, parce que il n'y aurait pas eu de regroupement, il n'y aurait pas eu de manifestation, il n'y aurait pas eu de karaoké. Toutes ces choses-là ont créé des situations parfaites pour la transmission du virus. C'est pour ça là, qu'on est dans le trouble présentement.
Oui, ça fait même pas... On est loin encore du 28, là, parce qu'on nous a parlé du 28 jours. On n'en est qu'au jour 7.
Oui.
C'est pas drôle, en fait. C'est assez pathétique. Là. On ne sait plus trop comment réagir par à ça, sinon que en se disant, bon, ben écoute, on va faire ce qu'on a à faire. Hein. C'est un peu ça, la meilleure façon de protéger nos proches et de nous protéger. Mais en même temps, il y a déjà beaucoup de gens ce matin qui disent 28 jours, ce ne sera pas suffisant. Il va falloir reporter ça dans le temps. Donc, c'est pour une période indéterminée. Comment vous voyez ça, vous, docteur Marquis, à la lumière de ce que vous vivez à l'hôpital?
Bien, clairement, si on veut se donner une chance collectivement d'avoir un système de santé capable de s'occuper de d'autres choses que de la COVID, c'est important de bloquer la progression de la COVID. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, il n'est pas trop tard pour avoir un effet positif. C'est certain que ça va être un petit peu plus dur, un petit peu plus long, mais il ne faut pas que les gens se découragent en disant « anyways, on est fini, laissons tout tomber ». Je pense qu'il y a encore des efforts qu'on peut faire, le but étant de protéger notre capacité d'accueil. Maintenant, chaque personne doit le prendre très personnel, puis dire qu'est-ce que moi je peux faire personnellement pour endiguer ça, puis accepter que momentanément, on va faire des choses moins agréables, comme de se priver de nos proches, comme de se priver d'avoir des sorties ou de se priver d'avoir des gros parties d'action de grâce. Mais tu sais, ça en fin de semaine, là, j'entendais même tout à l'heure la publicité, là, clairement la publicité continue de nous encourager de faire des parties. Là. T'sais, ils font des gros spéciaux, puis il faut que les gens comprennent, là, que non, c'est non, puis que ça se fait pas en fin de semaine, puis c'est comme ça.
Donc, on doit faire quoi, donc, en fin de semaine et dans les prochains jours pour protéger nos proches?
On reste tranquille à la maison, on leur téléphone, on zoom, on se parle, mais on se voit pas. On se voit pas en présentiel. C'est ça la chose, c'est la seule chose. C'est ce qui va empêcher le virus de progresser, c'est si chacun reste tranquille chez eux. Le virus, il n'y a pas le choix, il faut qu'il passe de personne en personne. C'est simple comme ça. Si on brise cette chaîne-là, le virus arrête. Il ne peut pas faire autre chose.
Mais Dr Marquis, qu'est-ce qu'on dit à tous ceux qui vont travailler, qui côtoient des collègues?
Bien, si on est obligé de côtoyer des collègues, bien, on fait comme on fait à l'hôpital. Là, je regarde autour de moi, tout le monde est assis tranquille, personne ne parle, puis tout le monde a un masque, puis ceux qui s'approchent des patients, ils ont aussi des lunettes et des choses comme ça. On se lave les mains, on est un peu obsessif, et c'est comme ça. C'est que si on peut pas mettre la distance, ben faut limiter les contacts physiques, faut se laver les mains, faut laver les surfaces, faut briser la chaîne de progression du virus. Le virus a pas le choix que de se promener dans des gouttelettes ou par des surfaces. On est chanceux là. Hein? Il pourrait se transporter dans l'air sur des longues distances comme du pollen, c'est pas le cas. Bonne nouvelle, il pourrait se transférer dans de l'eau, c'est pas le cas. C'est qu'on a les moyens d'arrêter sa progression. Faut juste se dompter. Et chaque petit geste compte. C'est comme ça. C'est un peu comme l'environnement. Là. Les gens sont prêts à faire là, des incroyables sacrifices pour sauver la planète. Bon, mais là, juste essayer de sauver votre société.
Mais est-ce que vous seriez-vous partisan là, que les gens qui sont pas en télétravail, là, qui sont au bureau, dont l'employeur d'ailleurs requiert la présence, hein, est-ce que tous ces gens-là qui sont en contact avec d'autres collègues, devraient-ils tous porter un masque?
Ben moi, je pense que oui. Rendu là, tout le monde devrait avoir un masque. Là. À moins que tu travailles tout seul dans ton poste de travail, dans un bureau fermé. Mais dès qu'on parle de cubicule, dès qu'on parle d'espace commun, nous, c'est comme ça. Quand je suis tout seul dans mon bureau, dans une aile perdue de l'hôpital, j'ai pas de masque, là, je vous le cacherai pas. Mais si un collègue qui rentre dans mon bureau, si je sors pour aller aux toilettes, si je traverse un corridor pour aller voir un autre collègue, j'ai le masque, j'ai la visière. Ben, moi, j'ai des lunettes, là, mais c'est ça la réalité. Parce qu'on peut croiser quelqu'un dans le corridor, un petit tous-tous, un échange. Les gens se disent, ouais, mais je vais juste y parler 2 minutes. Mais c'est parce que 2 minutes, là, c'est une éternité pour un virus, là, il y a le temps en masse, là. Il n'y a pas de temps trop court. Il y a des gens, des fois, qui promènent leur chien puis qui n'ont pas de masque, puis là, ils arrêtent pour parler à un voisin juste une seconde. Mais non, c'est trop, ça.
Mais la fameuse application là, qu'on nous dit de télécharger sur nos téléphones, c'est 15 minutes. Puis on nous dit souvent que c'est une exposition de 15 minutes là, sur laquelle on se base pour dire si on a été en contact avec quelqu'un.
C'est ça. C'est que le problème avec ça, c'est qu'à un moment donné, si on mettait un contact d'une demi-seconde, notre téléphone deviendrait fou, là, puis ça se mettrait à exploser. Ce qu'on fait, c'est quel est le contact qui représente c'est un continuum, là, un risque vraiment significatif. Mm-hmm. Mais comme c'est un continuum, il y a des gens qui peuvent attraper la COVID parce que il y a quelqu'un qui a passé en joguant, très essoufflé, qui projetait beaucoup, beaucoup, beaucoup de gouttelettes. Et à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de vent, puis il a passé dans le nuage de gouttelettes. Ça peut être assez. C'est juste qu'il faut... Et le risque zéro n'existe pas, si on l'a dit depuis le début, sauf si tu vis sur une île déserte puis tu tires sur toutes les personnes qui s'approchent. Mais après ça, il y a le risque minimal. Ça, c'est se laver les mains, respecter la distanciation sociale, porter le masque. Puis après ça, il y a des risques élevés, comme faire toutes les activités qu'on n'est pas supposé faire.
Oui, fait donc vous êtes d'accord avec le fait que le gouvernement ait fermé les gyms, alors?
Oui, non, mais particulièrement les gyms. Les gyms, c'est... Tu sais, on s'entend, là, il y a beaucoup d'humidité, il y a beaucoup de sueur, il y a beaucoup de gouttelettes. Les gens travaillent fort, ils projettent des gouttelettes. Pour la plupart des gyms sont quand même assez... Moi, je regarde à Montréal, quand les gyms sont assez cordés, là, je veux dire, il n'y a pas énormément de distance entre les gens. C'est plate, là, mais c'est comme une industrie qui est propice...
industrie, mais qui a beaucoup de partisans, là. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent, là, qui chialent, puis qui disent que ça n'a pas de bon sens qu'on ait fermé leur gym, là. Est-ce que pour vous, c'est des bébés?
Ben, c'est pas que c'est des bébés. C'est normal, les gens, de chialer parce que on les touche dans leur quotidien, puis dans dans les choses qu'ils aiment. Mais je pense que c'est beaucoup de gens qui n'ont pas eu de contact de premier degré avec le COVID. Ils n'ont pas de proche qui leur est mort d'un bras ou plutôt à distance parce qu'ils ne pouvaient pas être là. Je pense que tous ceux qui ont vécu la COVID directement n'ont pas ce genre de comportement-là, n'ont pas ce genre de plainte-là parce qu'ils ont vu la réalité de la COVID. C'est que j'invite les plaigneurs à aller regarder, hein, 24/7, les trois premiers épisodes, où ils vont voir c'est quoi la COVID, puis qu'ils vont tout doucement penser que s'ils donnent ça à leurs proches, c'est peut-être pas une bonne idée. Maintenant, à partir de là, il y a toujours des gens qui sont extraordinairement égocentriques, centrés sur eux-mêmes, pour lesquels tout coule comme sur le dos d'un canard. Maintenant, j'inviterais juste ces gens-là à se rappeler que s'ils font un sport quelconque, puis qu'ils ont un trauma, puis que le système de santé est complètement surchargé par la COVID, ils vont peut-être avoir un impact direct pour eux autres aussi, parce qu'on oublie tout le temps que le système de santé est là pour tout le monde, mais que s'il est surchargé par une clientèle particulière, c'est toute la clientèle au complet qui va en subir les conséquences. La première vague nous l'a montré, là.
Ouais. Mais Dr Marquis, la difficulté, puis c'est pour ça que je parlais tout à l'heure aux auditeurs de l'exemple de cette dame qui habite à Carleton-sur-Mer, en Gaspésie, Marie-France Landry, qui aujourd'hui sent vraiment mal pour toute sa famille. Elle dit « Toute ma famille », c'est un article est dans Le Devoir d'ailleurs, là, qui nous relate ce qui s'est passé. Elle dit « Toute ma famille a payé pour moi. Là, sur les 15 membres de ma famille, il y en a 7 qui ont été déclarés positifs après moi. Elle a amené toute sa gang jouer au bingo parce qu'ils y vont tous les mercredis. Puis là, elle a même amené sa maman de 94 ans, qui est correcte finalement, mais qui doit recevoir encore de l'oxygène. Elle dit, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que sincèrement, on a vraiment tout fait pour respecter les règles. On s'est lavé les mains, on a porté le masque, on était à 2 mètres, on a respecté la bulle familiale. On ne s'est même pas levé pour aller acheter une boisson ou un sac de chips. Fait qu'elle posait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Puis elle disait, peut-être c'est l'argent qu'on a manipulé. Fait qu'on oublie toujours un petit détail finalement. Mais c'est vrai qu'on ne le dit pas assez, ce faux sentiment de sécurité qu'on peut avoir pensant qu'on respecte les règles même.
Oui, mais toutes les règles visent à diminuer le risque. Ça, c'est la première des choses. Mais effectivement, ce que ça montre, c'est que quand il y a une contamination à quelque part, le mécanisme d'éclosion est extrêmement rapide. Et la santé publique, tu sais, la seule vraie façon d'être certain de régler le problème, là, ce serait que plus personne voit personne, tout le monde resterait dans son coin pendant 2 semaines de temps. Et ça, c'est complètement irréaliste. Jamais on pourrait survivre à ça. Mais ça serait la façon d'endiguer complètement la COVID. Cela dit, on a choisi de diminuer le risque avec certaines règles et c'est pas un risque zéro.
Mais ce que je comprends, c'est que c'est les asymptomatiques. C'est quand on le sait pas qu'on l'a nous-mêmes.
Ben, c'est là qu'on est le plus dangereux. Ah, oui. C'est vraiment là qu'on est le plus dangereux. Mais le respect des règles fait en sorte que si, par exemple, moi, là, je le sais pas puis je l'ai, là, la COVID, puis je suis asymptomatique, mais que je porte mon masque, j'ai déjà énormément réduit le risque pour tout le monde dans mon environnement de travail. Le danger, c'est quand je rentre à la maison puis que je porte pas mon masque et que là, je décide de rencontrer une personne puis de faire une exception pour une autre personne, puis cette personne-là va faire une exception pour une autre personne et c'est là que ça peut flamber d'un coup. Mais souvent, ça va aussi avec la conviction que nous, on va s'en rendre compte. Nous, on ne se fera pas avoir. Nous, on n'est pas à risque. Et cette espèce de petite pensée magique-là, c'est elle qui fait en sorte souvent qu'à un moment donné, on va couper les coins ronds. Le virus est un virus d'opportunité. Il n'a que ça à faire attendre qu'on fasse une erreur. Et il faut maintenir un niveau d'alerte. Moi, je dirais, quand on travaille dans la zone COVID positive, là, c'est pas là qu'on est à risque d'attraper la COVID parce qu'on a tellement d'équipement, puis on est tellement focussé sur le traitement des patients, puis qu'on sait que tout est dangereux. C'est pas là qu'on va l'attraper, c'est au moment où on sort de l'hôpital, qu'on va faire une autre activité, qu'on va faire notre épicerie, quand on allait au restaurant, des choses comme ça. C'était là, c'est quand on baisse nos gardes qu'on se fait avoir. Et c'est pour ça que c'est difficile, puis je dis pas que c'est facile, puis je dis pas aux gens, vous vous plaignez pour rien, c'est facile, vous êtes tous des bébés gâtés, c'est pas ça. C'est pas facile, c'est compliqué, c'est chiant, mais il faut le faire.
Alors, on répète en une phrase, là. Que doit-on faire pour protéger nos proches, Dr Marquis?
On va pas les voir. C'est tout simple que ça, pas de contact physique, le plus loin possible.
Ben, merci beaucoup, je vous laisse retourner à vos zones COVID. Merci bien, Dr Marquis, d'avoir pris le temps de nous parler.
Merci, au revoir.
Bon, c'est clair, mais comme on est indiscipliné, c'est dur à suivre. Puis c'est vrai que tout le monde a sa raison pour ne pas suivre cette recommandation. Avouez que c'est simple. On nous dit limiter vos contacts. C'est la meilleure façon de protéger vos proches. J'ai envie de vous demander à vous, qu'est-ce que vous faites, vous, là? Qu'est-ce que vous avez modifié dans votre vie de tous les jours pour essayer de vous protéger, de protéger vos proches? Puis aussi, il y a cette question, là, sur notre indiscipline. Est-ce que vous pensez que c'est, finalement, la raison de tous nos maux, le fait qu'on n'arrive pas, nous, ici, au Québec, il faut quand même s'en rendre compte, là, puis l'admettre, on a de la misère à la contrôler, cette crise, on est les pires au Canada. Alors, comment casser cette deuxième vague, puis avant Noël, hein, on l'espère, plus tôt que tard, 514-790-9850 pour répondre à tout ça. Et puis, de l'extérieur, vous pouvez faire le 1-866-790-9850. On va parler au docteur Gaston Dessert tout de suite après la pause sur les moyens de prévention également. À tout de suite. Je vous demande, qu'est-ce que vous faites, vous, personnellement, pour vous protéger et surtout protéger vos proches, éviter que ça se répande autour de vous? On a Isabelle qui nous appelle au 514-790-9850. Bonjour, Isabelle.
Bonjour.
On vous écoute?
Oui. Donc, moi, ce que je fais, j'enseigne au quotidien avec mon masque, avec les protections. J'applique les mesures le plus possible. C'était la fête de ma fille la semaine dernière, ma princesse. Comme toutes les mamans, j'aurais aimé lui faire une fête d'amis. Elle me trouvait bien plate. Mais là, maman, il y en a qui en font. Eh bien, non. C'est comme ça. Tu fais partie de la société. On va se faire une fête en famille juste entre nous. Puis c'est comme ça, là. Tout le monde doit participer. Puis, je dirais que moi, ce qui m'a fait sortir un peu de la bulle du Québec, là, en fait, parce qu'on est en permanence dans une bulle au Québec où est-ce qu'on est hyper, hyper chanceux. On fait partie du 1% de la planète très favorisée. On est habitué d'avoir à peu près tout ce qu'on veut et d'être dans une sécurité quasi absolue. J'ai enseigné pendant 5 ans dans une classe d'accueil à des enfants issus de l'immigration, tous des enfants réfugiés qui arrivaient de partout dans le monde, mais partout, là, autant la Chine, les États-Unis, République démocratique du Congo, partout sur la planète. Et les histoires que j'ai entendues de ces familles-là ont vraiment changé ma perception des choses.
Ça vous a décroché de votre nombril, là, comme ce qu'on devrait faire pas mal en ce moment. Là.
Ouais,
c'est
sûr que quand j'entends présentement qu'on porte atteinte à nos droits et libertés parce qu'on nous demande de porter un masque pour protéger les personnes vulnérables, ça me met en pavoir. Parce que, écoutez, des enfants de 6 ans qui ont été enfermés dans leur maison à Kaboul pendant 2 ans, parce que si elles sortaient dans la rue, c'était une petite fille, elles pouvaient se faire attraper, porter comme kamikaze. C'est épouvantable. Et c'est parce que ça a l'air que très, très loin, mais c'est partout sur la planète. Et quand on les côtoie, ces gens-là, c'est des enfants comme les nôtres, c'est des mamans comme les nôtres qui ont des parcours incroyables. Mm-hmm. On est tellement chanceux et gâtés, là. Moi aussi, je vais au gym d'habitude, là. Puis j'aime ça m'entraîner. Puis, mais là, j'y vais pas.
D'accord. Merci beaucoup, Isabelle. C'est très important ce que vous venez de nous livrer comme témoignage, parce que ça nous permet aussi de... Oui, des fois, on dit, quand on se compare, on se console, mais dans ce cas-ci, sincèrement, elle a tout à fait raison. Il y a des situations qui sont tellement pires que la nôtre ailleurs. Tu sais, notre petit bonheur tranquille, là, peut-être qu'on peut évaluer qu'il n'est pas si atteint, finalement. Ce qui est atteint, toutefois, ce sont certaines clientèles, puis on en revient toujours au nombre de décès. Encore beaucoup de gens âgés, donc c'est important de protéger nos proches. On va rejoindre tout de suite le Dr Gaston Dessert. Il est épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci de prendre le temps, Dr Dessert. On parlait là, avec le Dr Marquis de l'éventualité du 28 jours. De plus en plus là, ce matin, puis je pense que vous-même, vous n'êtes pas convaincu que 28 jours, ça soit suffisant. Le 28 octobre, là, est-ce qu'on risque de se faire dire, bon, ben, on est reparti pour un autre 28 jours?
Enfin, je ne sais pas si on est parti pour se faire dire qu'on a besoin d'un autre 28 jours, mais je pense que l'une des choses dont on doit être conscient, c'est que même si on met en place des mesures très strictes à partir du 1er octobre, tout ce qui s'est passé avant le 1er octobre, bien évidemment, c'est ce qu'on va voir pendant les 2 à 3 premières semaines d'octobre. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est quelque chose... En fait, les chiffres qu'on voit aujourd'hui du nombre de nouveaux cas, c'est évidemment ce qui s'est produit par une infection. En fait, l'infection s'est produite souvent 5, 10, 14 jours auparavant. Donc, c'est sûr que l'impact de toutes les mesures va paraître seulement vers la mi-fin octobre. Évidemment, même si on a mis en place des bonnes mesures, c'est que le délai entre le moment où quelqu'un est infecté, le moment où la personne développe ses symptômes, va pas passer son test, le test devient comptabilisé. Ces délais-là, ben évidemment, ils sont assez longs. Et donc, si mettons le 1er octobre, avec un respect, je dirais fort là, des consignes, la transmission a baissé beaucoup. Bien évidemment, avec, mettons, presque 1000 cas par jour dans les derniers jours, là, on peut dire que ça, on va voir premièrement un plafonnement, puis peut-être un début de descente, là, mais on ne verra pas quelque chose qui va être déjà, je dirais, bien avancé dans le processus. Alors là, quelle décision le ministère ou le gouvernement va prendre? Évidemment, il va avoir les chiffres les plus récents, mais pas avec beaucoup de recul. Alors là, je ne sais pas quelle décision ils prendront.
Mm-hmm. Certains experts disent que cette deuxième vague est en train de devenir pire que la première, qui a un nombre, vous-même, je pense, vous le dites, il y a 20 fois plus d'infections que cet été.
Ben, cet été, au moment où c'était le plus tranquille, là, vers la mi-août, on avait, au Québec, il y a eu des jours où on avait 50 cas par jour. Évidemment, 50 cas par jour, comparé à 1000 cas par jour dans les derniers jours, ben, on est à 20 fois plus que ce qu'il y avait dans la période la plus tranquille. Donc, ça montre comment ça a augmenté rapidement. Ceci étant dit, quand on parle de est-ce que c'est pire, mais ça va être pire maintenant que ce que ça a été au printemps, ben, ça dépend toujours qu'est-ce qu'on regarde. Le nombre de cas, c'est évidemment une chose importante. Le nombre d'hospitalisations, c'est quelque chose de très important. Le nombre de décès est aussi très important. Et pour le moment, ben, évidemment, le nombre de décès, il est encore, je dirais, relativement limité. Mais le nombre d'hospitalisations, il commence à monter. Et ça, évidemment, c'est perturbant parce que les gens, ça veut dire qu'il y a quand même des gens qui sont très malades. Mais aussi, c'est parce que ça met en péril d'autres activités médicales ou d'autres activités hospitalières qui sont importantes. Qu'on parle des gens qui sont traités pour le cancer, pour les maladies cardiaques ou pour d'autres maladies. Si l'abondance des cas hospitalisés devient trop grand, c'est sûr que tout ne pourra pas être fait. Là.
Mmh. Est-ce que c'est ça qui vous inquiète le plus que tout le reste relié à la COVID?
Ben, c'est certainement un des aspects très importants liés à la COVID, des aspects sanitaires. Puis, encore une fois, ce qui est compliqué dans cette crise-là, moi, c'est facile de regarder l'évolution du nombre de cas de COVID. Mais quand on a à prendre des décisions pour dire ben, qu'est-ce qu'on privilégie, qu'est-ce qu'on privilégie pas, on doit faire l'équilibre entre plusieurs, entre guillemets, bonnes choses. Donc, est-ce qu'on hospitalise plus de monde pour la COVID puis moins de monde pour le cancer? Bien, évidemment.
Il y a un cas ce matin. Oui, il y a un cas ce matin. Excusez-moi de vous couper là-dessus, mais il y a justement un cas. Une dame, là, plus de 90 ans, 94, je pense, elle est dans le corridor depuis 2 jours à Pierre-Boucher, à Longueuil, parce que il y a des lits, mais on les garde pour les cas de COVID, d'après ce qu'on lui a dit.
Mm-hmm. Ben non, c'est effectivement, je pense qu'on arrive quand il y a beaucoup de cas de COVID à des situations pour lesquelles les décisions sont totalement déchirantes, très très dures à prendre parce que encore une fois là, c'est il y a des gens qui vont souffrir si on prend la décision dans un sens, puis si on prend la décision dans un autre sens, c'est d'autres personnes qui vont souffrir. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Et c'est pour ça qu'on dit il faut maintenir le nombre de cas dans la population à un niveau faible pour éviter d'être obligé de se retrouver dans ces situations-là.
Le ministre de la Santé semblait penser qu'on était trop indisciplinés, nous, au Québec, comparativement à l'Ontario. Vous dites quoi à ça, docteur Dessert?
Ben, écoutez, c'est sûr que l'épidémie, si elle a repris beaucoup d'ampleur, c'est parce qu'on a eu beaucoup de contacts qui étaient suffisants pour permettre à la maladie de se transmettre. Qu'est-ce qui explique la différence entre l'Ontario et le Québec? Je pense que c'est pas tout à fait clair, mais ce qui est clair, c'est quand on regarde la montée actuelle de la COVID au Québec, là, c'est parce qu'on a eu trop de contacts qui ont permis au virus de se transmettre. Et évidemment, ces contacts-là, il y a eu le groupe des plus jeunes, là, des 18 à 25 ans, qui ont peut-être parti le bal un peu là, vers la fin de l'été. Mais c'est clair que quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début septembre, c'est un peu dans tous les groupes d'âge où on a vu des augmentations. Puis on a un peu tout le monde dans la population a reçu des amis, été chez des amis, fait des parties, puis probablement pas avec les mesures de distanciation de 2 mètres puis des protections suffisantes pour empêcher la transmission.
Mmh. Est-ce que vous êtes confiant qu'à la fin octobre, le taux de reproduction du virus va baisser puis que l'avenir va être plus radieux?
Ben, je suis persuadé que la mise en place des mesures qui ont été imposées va avoir diminué le taux de reproduction. Maintenant, est-ce qu'il va l'avoir diminué en bas de 1? Ben, je l'espère chaudement. Est-ce qu'il va l'avoir diminué considérablement en bas de 1? Ça, c'est pas certain, hein, parce que, encore une fois, je dirais que c'est difficile. C'est une maladie très contagieuse. Donc, son taux de reproduction, là, si on fait comme ce qu'on faisait au mois de janvier dernier, là, c'est très élevé. Et donc, pour le ramener en bas de 1, là, il faut vraiment couper beaucoup nos contacts.
Mais voilà, bon, on a bien compris. On va voir si on va suivre ces bons conseils. Merci beaucoup, Dr Gaston Dessert, épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Pause et on revient avec vos commentaires. Il y a Yves qui est très découragé. Il me dit, c'est bien beau les tests pour la COVID, mais il faudrait penser aux résultats. Ses enfants, 6 ans, 8 ans, ça fait 2 semaines qu'ils vont pas à l'école parce qu'on n'a toujours pas encore les résultats. Je comprends son impatience et sa frustration. Bonjour Anne, je pense que vous vous préparez même pour le temps des fêtes.
Exact, oui. Nous, on a de la chance, mon mari et moi, on travaille à distance en ce moment. On a un garçon au cégep que lui fait ses cours à distance, puis ma fille au secondaire que on pense la retirer 2 semaines avant les fêtes et dire à mon garçon de quitter son travail 2 semaines avant les fêtes parce que j'ai une mère de 82 ans qui habite seule. Mm-hmm. Et puis je veux absolument pas qu'elle soit seule pendant les fêtes parce que déjà, ça fait depuis le mois d'août qu'on s'est pas vu. Elle a pas vu ma sœur, mon frère. Ouais. Alors, on prend nos mesures. On va tous rester à la maison pendant les 2 semaines, ainsi que le temps que ma mère est ici. Faire nos commandes en ligne pour être capable d'être avec elle. Malheureusement, ma sœur, mon frère, ils seront pas parce qu'on va essayer de garder ça le plus petit peu. C'est juste notre petite famille immédiate.
Juste votre bulle. Oui, c'est ça.
Exact.
Ouais. Réduire les contacts, là, vraiment, au minimum. Merci beaucoup, Anne. Michel, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute, Michel.
Bon, moi, j'avais un petit problème parce qu'actuellement, moi, je suis en attente d'un test de COVID.
Oui, vous aussi.
Et puis, ça va faire 10 jours aujourd'hui. Et puis, je demeure avec mes parents. J'ai mes 4 enfants à la maison avec ma femme qui est immunosupprimée. Alors, elle doit rester.
Ben oui, ça fait beaucoup de monde dans la même maison. Puis, vous ne savez pas ce qui vous attend, là, finalement. Quelles mesures vous prenez en attendant d'avoir les résultats de votre test là, depuis 10 jours?
Mais là, moi, j'ai été obligé de retourner travailler. Parce que là, moi, j'ai pas devenu autre. Et puis, ma femme non plus, parce qu'elle est immunosupprimée.
Ouais.
Alors, à ce moment-là, moi, j'ai pas eu le choix de retourner travailler. Là, j'ai 2 enfants à la maison. Puis, en plus de ça, moi, j'ai une grande maison. Je demeure à la campagne. J'ai mon frère qui demeure au sous-sol. Et lui, travaille dans les CHSLD.
Dieu! Vous êtes combien dans la maison, Michel?
9.
Vous êtes 9 avec quelqu'un qui travaille en 9. CHSLD. Il y a une dame qui est immunosupprimée. Mais vous savez qu'avec... une personne de votre famille qui est immunosupprimée comme ça, vous auriez pu avoir droit à, par exemple, à une aide gouvernementale là, pour ne pas être obligé de retourner travailler.
Bien, moi, je n'étais pas au courant de ça, puis ma conjointe s'est informée et ça a l'air que il n'y a pas rien qu'on peut faire pour ça.
Écoutez, restez à l'écoute parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour ça, justement. Puis à partir de 11h05, justement, après les nouvelles tout à l'heure, là, d'ici une demi-heure, on va parler de ça. On va avoir notre comptable fiscaliste là, qui va revenir sur ces mesures là, qui viennent d'entrer en vigueur depuis le début octobre parce que ce n'est plus la PCU, c'est autre chose, c'est l'assurance-emploi. Mais il y a également d'autres programmes qui certainement peuvent répondre. En tout cas, dans votre cas, c'est clair qu'il y a quelque chose qui peut être fait parce que vous êtes neuf, il y a des enfants, des grands-parents, une personne malade, quelqu'un qui travaille en CHSLD, vous qui êtes retourné travailler sans avoir eu le résultat de votre test COVID, je trouve qu'il y a là une espèce de bouillon de culture potentiel. Merci, Michel. Restez avec nous, bien sûr. On va prendre vos coordonnées. Marc Hamilton est avec nous, il est microbiologiste. Bonjour, Marc.
Oui, bonjour.
C'est toute une situation là, que celle de Michel. Là. Évidemment, ça fait beaucoup de monde dans la même maison.
Il y a beaucoup de facteurs de risque au même endroit.
Voilà, c'est ça. Puis des fois, on les voit pas forcément nos propres facteurs de risque quand même. Ça touche même des microbiologistes, en tout cas leur famille, parce que vous-même, récemment, votre fille ado a été en contact avec une amie qui a testé positif à la COVID. Qu'est-ce que vous avez fait chez les Hamilton?
Ben nous, autant que le printemps dernier, on connaissait pas personne qui avait la COVID, autant qu'aujourd'hui, on connaît quelqu'un qui l'a eu, du moins chez les jeunes, et c'est un peu ce qui est arrivé, c'est que ma fille, elle a passé le week-end dernier, ben il y a plus 10 jours maintenant, avec des copains, tu sais, avant qu'on doit se confiner, il y avait, les jeunes se tiennent beaucoup ensemble, il y avait 5-6 personnes, puis il y en avait une là-dedans qui a été déclarée positive, donc ma fille a été en contact avec elle, quasiment une journée de temps. Et quand la personne l'a appelée, elle a dit « Écoute, je suis déclaré positif à la COVID, je ne le savais pas. » Puis elle a été comme 2 jours avant, donc il y avait un risque. Fait que nous, on l'a fait tester, mais quand on a su ça, c'est sûr que oui, ça a pris au moins 6 jours avant qu'on ait les résultats, ce qui était très long. Mais nous, quand on l'a su, on a dit « Oups, OK, faut pas jouer au cordonnier mal chaussé. » Moi, je travaille beaucoup dans la COVID. Fait que, on a décidé, nous, c'est l'avantage qu'on a une maison qui nous permet de le faire. C'est que sa chambre est au sous-sol, elle a une salle de bain à elle tout seule, donc elle a été confinée un peu dans ses appartements. Donc, elle était très bien dans sa chambre, sa salle de bain. Quand elle venait dîner avec nous autres au souper, bien, à ce moment-là, elle ne mangeait pas au même temps que nous autres. Donc, on faisait manger, on mangeait avant, elle venait manger après. Ouais. Donc, on a toujours gardé un minimum de distance dans la maison. Quand elle venait trop près de nous, même dans la maison, on disait, écoute, porte un masque. Quand des fois, tu n'avais pas le choix qu'on devait rester à côté d'elle, du moins proche d'elle un petit bout de temps. Et aujourd'hui, bien, elle a été déclarée négative. C'est la bonne nouvelle. Mm-hmm. Et aujourd'hui, ça fait 10 jours. Donc, elle a retourné à l'école. Donc, c'est un peu ce que nous, on a fait. Et on n'a pas eu... on était chanceux, elle n'était pas positive, mais on a quand même appliqué le protocole comme si elle était positive.
Oui. C'est long, hein? 10 jours de vacances, on trouve ça court. 10 jours dans le sous-sol à attendre que le temps passe, c'est long toutefois. Puis c'est pour ça, je pense aussi, c'est probablement une des raisons, Marc Hamilton, que les gens... au bout d'une couple de jours, se tannent puis finissent par adopter leur propre protocole maison, c'est-à-dire, bon, on fait attention ici et là, mais ça, on s'empêchera pas de vivre. C'est un peu ça, ce qu'on appelle l'indiscipline des Québécois, en tout cas, ce que Christian Dubé semblait trouver, là, qu'on était indisciplinés comparativement aux Ontariens. Puis le docteur Marquis disait tout à l'heure qu'il avait travaillé, lui, en Ontario, puis que les gens là-bas étaient beaucoup plus obéissants, là. Nous, il y a quand même quelque chose qu'on fait pas de correct d'après vous. C'est quoi? C'est le nombre de contacts qu'on continue d'avoir en trop grand nombre? Ça serait quoi la raison première d'après vous?
Ben oui, on s'entend que qu'est-ce qui fait que le virus est bien vivant au Québec? Puis le virus, on le sait, il aime les êtres humains. Donc c'est sûr que plus il y a d'êtres humains au même endroit, surtout si on est proche, le virus va aimer ça. Lui, il s'en nourrit. Donc c'est évident que si on est encore bon premier, si on a été bon premier même pendant tout l'été, c'est même cet été, même si on était en contrôle de la maladie, de sorte qu'on avait en bas de 100 cas par jour, on était quand même les champions quand même durant tout l'été. Ce qui fait que même durant l'été, lorsqu'on a dit, ben écoutez, on se déconfine, profitez-en, entre guillemets, donc les gens en ont profité beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup de rassemblements, beaucoup de parties, les gens étaient en vacances. On a fait comme si on avait complètement oublié la COVID. Et c'est ce qui fait que cette indiscipline-là, ou du moins le fait qu'on ait oublié rapidement que le virus était encore vivant autour de nous, a accentué, ce qui a fait en sorte que cet automne, ben, considérant qu'on était premier, ben, le virus s'est exponentiellement installé plus rapidement chez nous qu'ailleurs. Puis, tu sais, beaucoup de gens disent, ben, c'est notre caractère latin, caractère français. Ben, c'est pas faux, parce que, comme le docteur Marquis disait tantôt, moi, j'ai des succursales en Ontario, de nos laboratoires, et c'est vrai que l'approche avec les Ontariens est carrément différente lorsqu'on voit des gens-là, en dehors de la COVID, on s'entend, on a moins tendance à se coller, ou du moins se donner la bise, on resserre la main, on se garde une certaine distance, donc c'est sûr que l'approche des Québécois est très française, hein, où est-ce que quand on regarde les Français, puis même si tu regardes encore les Français aujourd'hui, sont mal pris avec la COVID, là. On voit que sont en manchés, entre guillemets, comme nous autres, là. C'est une recrudescence là-bas, c'est pas plus rose. Et je crois que c'est culturel chez nous, et c'est plus fort que nous, c'est ancré dans nos gènes d'aimer l'être humain et d'aimer d'être en rassemblement.
Mm-hmm. Fait qu'on est distinct même dans notre traitement de la COVID.
Absolument.
Ouais. Vous restez avec nous, Marc Hamilton, on revient tout de suite après la pause. Restez là, tout le monde. On va parler à Louise rapidement. Bonjour, Louise.
Oui, je vais dire ça rapidement, concentré. Alors, je pense que les gens doivent se responsabiliser non seulement dans les conseils que le gouvernement nous donne, ben accentuer l'hygiène de leur milieu de vie. Je te donne la liste.
Mm-hmm.
Quand on vient, le virus peut vivre plusieurs heures, plusieurs jours sur les tissus. Quand on vient du milieu de travail, on met notre linge en lavage. On passe aux serviettes à l'eau de Javel, literie, serviettes à l'eau de Javel, les planchers, les surfaces. On aère notre milieu de vie, on ouvre les fenêtres. On nettoie, fait nettoyer si on peut les canaux de ventilation. On demande à notre propriétaire d'immeuble de nettoyer les canaux de ventilation. Puis dans notre voiture, ben on a une petite bouteille d'alcool, on nettoie notre volant, puis on change plus souvent notre filtre à pollen. Voilà.
Ouais, ben vous êtes équipé. Merci Louise. Je demandais à Marc Hamilton, microbiologiste, si ce sont effectivement des recommandations qu'il faut tous suivre. L'eau de Javel, entre autres, sur les surfaces. C'est sûr qu'après on est obligé d'aérer parce que ça sent fort. Est-ce que Louise a raison de faire tout ça, Marc Hamilton?
Ben, écoutez, ça c'est suivre vraiment à la lettre là tout le côté sanitaire pour éviter la propagation du virus. Je la félicite. Très peu de gens en font autant.
Mm.
C'est sûr que oui, il y a des désinfectants moins agressifs que l'eau de Javel pour éliminer le virus. On s'entend que de l'alcool à 70% peut faire la job. Il y a des détergents à base d'amine quaternaire qui fait aussi le travail. Donc il y a une panoplie de détergents.
Ouais.
On sait que
le
que
vinaigre, est-ce que c'est suffisant le vinaigre?
Non, ça ne fonctionne pas, le vinaigre. Le vinaigre, on a fait des tests. On pensait que oui au début, mais on a fait des tests puis ça ne réussit pas à percer la fameuse membrane lipidique du virus. Donc, c'est pas recommandé. Mais il reste que de laver son linge avec de l'eau de Javel, on sait que le virus est fragile hein, au savon. Fait que l'eau de Javel, quand on lave notre linge, c'est pas mauvais d'en mettre là, si vous avez du blanc, là, mais si vous avez pas de blanc, juste avec du savon, ça va faire la job. Là. Laver à l'eau tiède avec du savon, c'est très efficace pour éliminer le virus sur les vêtements. Oui, de désinfecter les endroits où est-ce qu'on s'est mis les mains après l'avoir utilisé, c'est recommandé. Donc, comme je vous dis, il y a des panoplies, comme l'alcool à 70%, là, si des gens n'ont pas, peuvent prendre l'alcool à friction qu'on retrouve un peu partout dans les pharmacies. C'est tout des bons trucs pour désinfecter les surfaces.
Ouais. Vous pensez qu'on va se rendre jusqu'à quand, là, avec des comme ça, une privation de contact?
Oh. je ne veux pas être pessimiste, mais juste un exemple. La semaine, moi, je joue hockey 3 fois par semaine. Puis avec ce qui a été annoncé, les gens me disaient, Marc, en guillemets, tu connais ça, COVID? Moi, j'aurais répondu, j'ai dit, ben, bonne année. On m'a dit, joyeux Noël, bonne année. On ne pense pas qu'on joue cette année. Qu'est-ce qui fait en sorte que je reste un peu pessimiste du fameux 28 jours? C'est qu'on tombe dans une période où est-ce que, qui est propice au virus respiratoire. C'est vraiment au printemps passé, où est-ce que c'était l'hiver, le printemps, et on arrivait l'été. Là, c'est l'inverse, on arrive durant l'hiver. Donc, ça peut prolonger la propagation, effectivement.
Ouais. D'où l'importance vraiment pour protéger nos proches de respecter ce minimum de contact à avoir avec les autres, là. Rester le plus souvent possible chez soi, dans sa bulle, dans la mesure évidemment du possible. Merci beaucoup, Marc Hamilton.